L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de L'Or Photo. L'Or Photo, c'est ton magasin de photographie depuis 1938. Ils sont spécialisés dans l'impression et tout ce qui touche de près ou de loin à la photographie. Acheter sur Internet, c'est une chose, mais quand vient le temps d'avoir de bons conseils et du service de qualité, mais c'est chez L'Or Photo que ça se passe. Ils sont situés sur le boulevard Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais tu peux également les visiter sur leur site web au lorphoto.ca. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue au Photo Photo Podcast. Mon nom est Jarold Dumouchel et aujourd'hui, on parle du droit d'auteur. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, au Photo Photo Podcast, on va parler quelque chose qui est pas super sexy. On va pas tester un nouveau boîtier, on va pas parler de nouvelles techniques photographiques ou de drones ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement important et ça concerne vos droits d'auteur. Ça concerne la façon que vous devez protéger vos photos pour vous assurer que quand vous vous les faites voler par des entreprises ou des individus, que vous sachiez un peu quoi faire et comment réagir par rapport à ce vol de droits d'auteur. Ça peut paraître pas tellement important pour certains, mais quand on vit de la photo, quand on fait ça tous les jours, se faire voler ses photos, c'est quelque chose d'extrêmement frustrant, c'est un manque à gagner. Et considérant tout l'argent qu'on met dans nos appareils, dans nos boîtiers, dans nos flashs et tout le reste de l'équipement, on est en droit par la loi et par le gros bon sens de pouvoir obtenir rémunération pour le travail qu'on a fait. C'est sûr que dans le cas d'un vol de photos sur le web, ça peut devenir quand même un combat quand même assez long, assez ardu pour être en mesure de faire valoir ses droits. Mais par expérience, je peux vous confirmer que c'est important de le faire et qu'au bout de la ligne, vous allez obtenir réparation si vous avez un dossier qui est relativement béton. Aujourd'hui, ce qu'on va prendre comme exemple, on va pas chercher très loin, on va utiliser carrément mon jugement à moi. Moi, je suis allé deux fois aux petites créances. Il y a un jugement qui est confidentiel compte tenu d'une entente confidentielle, mais le second jugement, parce qu'on s'est rendu devant le juge, parce qu'il y a eu jugement prononcé par le juge, le dossier est donc public. Vous pouvez le consulter si vous le souhaitez via le site des petites créances. Mais pour aujourd'hui, on va partir de cet exemple-là et on va déterminer un peu chacun des éléments, savoir combien ça vaut un droit d'auteur, des photos, c'est quoi les étapes, c'est quoi le processus, c'est quoi la durée, et ainsi de suite. Ça peut devenir quand même assez long. C'est un chemin du combattant qui peut être long et ardu. Mais fiez-vous sur moi, ça vaut la peine d'y aller. Ce sont vos photos. Quand vous les faites voler, c'est extrêmement frustrant. Mais bref, l'important, c'est de pouvoir faire valoir vos droits et de pouvoir obtenir réparation quand vient le temps d'aller chercher des sous contre des gens qui ont utilisé vos photos, qui ont cherché à faire de l'argent avec ou que tout simplement, ils ont voulu s'approprier la propriété de vos œuvres. Fait que bref, aujourd'hui, on va parler de mon jugement à moi qu'on va utiliser comme exemple. On va parler des cours de la cour des petites créances. Fait que pour nos auditeurs français ou à l'extérieur du Québec, vous aurez compris que l'épisode d'aujourd'hui ne s'adresse plus ou moins à vous, malgré le fait que vous avez probablement dans vos pays et vos régions des lois qui vous protègent probablement de façon similaire, mais c'est clair que si vous êtes français, vous devriez probablement vous adresser à un avocat français pour être en mesure de comprendre vos droits et la façon de récupérer un peu ce qui vous est dû. Fait que bref, aujourd'hui, on va parler d'un exemple qui m'est arrivé en 2022. Je vous raconte un peu l'histoire. Je découvre sur un site via les statistiques de mon site web qu'il y a un site qui utilise 16 de mes photos. 16 photos dans un seul et unique article sur un site qui ressemble un peu au principe du clickbait, là, qui est grosso modo un site qui parle de différents sujets dans le but d'attirer une visibilité et après ça, via les différents bandeaux, de pouvoir rentabiliser un peu le tout. Alors, quand je m'aperçois de la chose, la première chose que je fais, et c'est la chose que vous devriez toujours faire en premier quand vous découvrez un site qui utilise vos photos, c'est de faire une capture d'écran. Une capture d'écran, pas juste de la page de votre écran, mais vraiment de la page au complet. Si le site fait deux pages, vous devez être en mesure de pouvoir faire une capture d'écran de la totalité de la page. Il y a des add-ons qui existent sur les browsers, que ce soit Chrome, Safari ou les autres. Fait que, bref, installez ça, faites une capture d'écran au complet et à partir de là, au moins, vous avez une preuve tangible qui certifie qu'il y a un site quelque part qui utilise votre contenu sans votre autorisation. Ça peut être une photo, ça peut être une vidéo, ça peut être un article, ça peut être ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, on va quand même se pencher sur la photo uniquement. Mais sachez quand même que ça s'applique à peu près sous toutes les formes d'art qui existent. Le droit d'auteur, ça concerne autant tout ce qui est photo, vidéo, articles, livres, architecture et un paquet d'autres trucs qui englobent un peu tout ce qui est droit d'auteur. Fait que, mais sachez que ça existe, mais aujourd'hui, dans le cas présent, vu que c'est un blog qui parle de photos, on va donc parler d'un cas typique de photos volées. La première question qu'il y a beaucoup de gens qui se posent, c'est combien ça vaut exactement une photo? Surtout dans le cas, par exemple, d'une photo que vous avez prise dans le passé, que vous avez mis sur un site web ou sur Facebook et qui se retrouve aujourd'hui sur un site qui n'est pas du tout celui auquel vous avez accepté de participer. Vous avez déjà fait votre photo, vous avez déjà été payé, peu importe, ça n'a aucune importance. Vous êtes toujours le propriétaire de votre photo, sauf si vous avez signé une entente qui dirait le contraire de ça. Mais sinon, vous êtes l'auteur. À partir du moment que vous pouvez le prouver, c'est à l'autre partie de justifier pourquoi ils ont utilisé votre photo sans consentement. Bref, dans mon cas à moi, je suis donc devant un site web qui utilise 16 de mes photos. Et la problématique des sites web de plus en plus sur Internet, c'est de trouver qui est le propriétaire de ce site-là. De plus en plus, via le nom de domaine, on n'est plus en mesure de savoir à qui appartient le site. Dans les sections « Nous contacter » à propos de nous, les politiques de confidentialité, les conditions d'utilisation, de plus en plus, les gens cachent cette information-là là-dedans. Fait que ça devient un peu problématique, puis il faut trouver une espèce de façon contournée d'aller chercher cette information-là. Dans mon cas à moi, il a fallu que j'appelle l'entreprise et que je discute avec les gens pour être en mesure un peu de les questionner par la bande, par la porte d'en arrière, à savoir qui était propriétaire. Une fois que j'ai cette information-là, c'est là un peu que le travail de la mise en demeure commence. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand un site utilise vos photos, il y a comme, qui dirait, 3 ou 4 différents scénarios. Vous pouvez soit être correct avec l'idée puis que ça s'arrête là, vous pouvez soit juste demander le retrait des photos, vous pouvez soit juste demander d'ajouter votre crédit si c'est pas fait, ou si vous êtes un peu comme moi, ben vous avez travaillé pour vos photos, c'est votre travail, vous voulez donc être rémunéré en conséquence. La loi vous permet de faire ça, vous protège vous et vos œuvres. Fait que par cette occasion-là, moi, mon but, quand j'envoie une mise en demeure, c'est donc de dire à la partie adverse, voici, je vois que vous utilisez mes photos sans mon consentement, je vous demande le montant X par photo et sachez que si vous ne payez pas dans un temps qui est déterminé dans la mise en demeure, je prendrai les mesures qui s'imposent pour faire valoir mes droits. Une mise en demeure, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Du moment que vous avez l'adresse de la personne à qui vous l'envoyez, que vous avez vos coordonnées, que vous avez le détail complet et précis de ce que vous reprochez à la partie adverse, à partir de ce moment-là, vous pouvez l'écrire vous-même. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, envoyer ça par un avocat. Ça peut faire un peu plus son effet. Mais sinon, pour ce qui est du reste, le but premier de la mise en demeure, c'est d'envoyer un message clair et précis à la partie adverse avec l'intention de dire « voici ce que j'exige à partir de là et si vous ne faites rien, je prendrai les mesures décrites dans le document. » Vous n'avez pas besoin de vous étaler sur la longueur ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de commencer à dire « voici les preuves qui déterminent que ce sont mes photos ou quoi que ce soit. » Vous avez tout simplement à dire « ce sont mes photos, voici l'action que je souhaite que vous preniez. » À partir de là, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie adverse va recevoir la lettre que vous devez absolument envoyer par courrier recommandé. Le courrier recommandé, dans le fond, c'est votre preuve concrète que cette personne-là a bien reçu la lettre. Elle ne pourra pas dire par la suite « Ah, ben je ne sais pas de quoi qu'il parle, je n'ai jamais reçu ça. » Vous devez demander une signature pour la lettre et à partir de là, ce sont vos pièces que vous allez potentiellement déposer à la Cour des petites créances avec les captures d'écran. Bref, à partir du moment que la lettre est envoyée et que la personne l'a reçue, généralement, cette personne-là va vous appeler ou va prendre contact avec vous. Une lettre, une mise en demeure n'est pas nécessairement une obligation, quoi que ce soit, mais ça a quand même un peu la symbolique d'un point fort sur la table pour dire « Hey, je viens de m'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Fais quelque chose parce que sinon, sinon il va y avoir des conséquences. » Fait que la mise en demeure, généralement, la personne qui la reçoit a deux façons de le voir. C'est soit qu'ils vont chercher à corriger le problème ou ils vont la déchirer, l'envoyer au vidange puis il va dire « Ben, tu feras bien ce que tu veux, moi je m'en fous. » À partir de là, la personne, quand elle vous appelle, généralement, quand c'est dans des cas de photos, elle a déjà retiré les photos sur son site web parce qu'elle se dit probablement « Ben, il m'envoie une lettre en mise en demeure, j'envoie les photos, ça finit là, merci, bonsoir. » Non, 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 ça ne finit pas là. Peu importe la durée de temps que la photo s'est retrouvée sur le site de cette personne-là, si elle n'a pas demandé l'autorisation, vous êtes en droit de demander réparation. Et il y a des jugements qui ont été portés et qui étaient sur des durées de une heure que ça a été affiché sur le site web. Il y a eu quand même réparation pour le photographe. Fait que bref, c'est pas à prendre à la légère et c'est de faire très attention. Fait que si vous avez, par exemple, un site web sur lequel vous affichez des photos qui ne sont pas les vôtres, je vous le dis tout de suite, faites très attention. Assurez-vous d'utiliser soit des photos qui soient libres de droit ou d'avoir des photos qui sont les vôtres ou que vous avez eu des autorisations. Mais bref, revenons un peu à notre cas à nous qui nous concerne aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous décidez d'aller aux petites créances, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Il faut enregistrer sa cause, il faut partager ses pièces justificatives, il faut passer par la médiation et tout ce processus-là prend du temps et tout dépendant de votre district juridique, ça peut prendre de 2 ans et peut-être même un peu plus, parfois un peu moins, mais je vous dirais que la moyenne se situe pas mal autour de 2 ans. Fait que le matin que vous décidez d'aller à la cour, attendez pas à recevoir de l'argent rapidement parce que ça va être long, ça va être ardu, vous allez passer du temps là-dessus. Fait qu'il faut que vous soyez quand même moindrement motivé pour pouvoir passer à travers ce processus-là. Mais bref, revenons un peu à la mise en demeure. La personne vous contacte, elle vous dit, ben j'envoie. Moi, dans mon cas, moi, la personne me dit, les photos ont été retirées du site, c'est pas moi qui est propriétaire, arrange-toi avec tes problèmes, moi, je ne paierai rien du tout. Fine. Moi, dans mon cas, moi, j'ai déjà la preuve que c'est lui qui est le propriétaire parce qu'il me l'a confirmé. Malheureusement, dans mon cas à moi, je n'avais que sa parole contre la mienne. J'avais l'appel qui confirmait que c'était lui. J'avais fait des captures d'écran où est-ce qu'on voyait son numéro de téléphone, où est-ce qu'on voyait mes photos, ainsi de suite. Fait qu'à partir de là, c'est sûr qu'il y a une partie que quand on se présente à la cour, c'est de ma responsabilité, moi qui accuse, de pouvoir déterminer que c'est bel et bien lui le propriétaire du site. On va y venir un peu plus tard. Mais bref, à partir du moment que la mise en demeure n'a pas fait son effet, après ça, la prochaine étape, c'est d'enregistrer sa cause aux petites créances en bonne et due forme. Pour ça, ça se passe via le site web de la justice québécoise. Il y a un formulaire qui est relativement simple et rapide. Il y a un coût qui est associé à ça. Je vous l'affiche à côté de moi par rapport au montant que vous demandez. Ça va être modéré en fonction de ça pour savoir combien ça va vous coûter d'enregistrer votre cause. Les montants diffèrent un peu selon ce que vous allez exiger. Quand vous allez à la cour, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous êtes en droit aussi de demander des dommages et intérêts. Fait qu'en plus du prix que vous demandez, par exemple, par rapport à chaque photo, ben vous êtes en droit de pouvoir dire, ben je considère que cette personne-là a porté préjudice à mon travail et je demande donc réparation pour ça. À partir de là, vous pouvez le demander, vous pouvez mettre le montant que vous voulez, mais ça va être de votre responsabilité en cours de pouvoir justifier que ce montant-là est bel et bien réel et que ça représente des pertes nettes et précises que le juge pourra regarder et considérer comme étant juste à votre égard. Bref, dans mon cas à moi, j'enregistre ma cause aux petites créances dans mon district juridique, qui est Saint-Jean-Richelieu, et à partir de là, moi, je joins mes deux pièces justificatives qui sont ma capture d'écran que j'ai faite dès le départ et ma mise en demeure pour que la personne ne puisse pas être en mesure de dire qu'elle n'était pas au courant de quoi que ce soit. Fait qu'à partir de là, une fois que les pièces sont jointes au dossier, la partie adverse, à partir de ce moment-là, c'est un peu dans sa cour que le travail se retrouve, à savoir de pouvoir, à son tour, de son côté, de mettre des pièces justificatives. Dans mon cas, moi, la pièce qui a été mise par la partie adverse a été tout simplement un bref texte juste pour dire « je ne suis pas propriétaire du site », point final. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous poursuivez quelqu'un, et si vous n'avez pas de contrat qui dit, par exemple, « signé à Saint-Jean-Richelieu », ou est-ce que, dans ce cas-là, l'endroit où est signé le contrat, c'est l'endroit où sera porté les problèmes juridiques. Ça veut dire que si je signe un contrat à cette île, mais que j'habite à Saint-Jean-Richelieu, qui est sur le contrat, il est marqué « signé à cette île en date du XYZ », ben, si j'ai un problème et que je dois aller en cour, le contrat justifie par défaut que je dois m'adresser à la cour de cette île. Dans mon cas, moi, je n'ai pas de contrat avec la personne, vu qu'ils ont utilisé mes photos sans mon autorisation. Mais dans ces cas-là, règle générale, la partie adverse, la partie défendresse, est en droit de demander le déplacement de la cause dans son district juridique. Ce qui veut dire que dans mon cas, moi, la personne habitait sur l'île de Montréal. Elle était donc en mesure de demander le déplacement de la cause de Saint-Jean-Richelieu à Montréal. C'est pas tellement loin pour moi. Saint-Jean-Montréal, ça se fait bien. Mais pour ceux qui se déplacent en voiture à Montréal, savent que c'est un peu le bordel et que ça peut prendre quand même une bonne journée au final de se déplacer là puis de revenir. Fait que, bref, je me croisais les doigts dans l'espoir que la partie adverse ne demande pas le déplacement de la cause. Et à mon grand étonnement, ça n'a pas été fait, ce qui fait qu'elle avait un temps limite pour pouvoir demander un déplacement de la cause, ne l'a pas fait. Et à partir de là, la cause poursuit donc son bout de chemin à Saint-Jean-Richelieu, à savoir à quelques minutes de chez moi. Bien content de la situation. Bref, après ça, une fois que la cause est enregistrée, une fois que les pièces justificatives ont été mises au dossier, une fois que la partie adverse a répondu avec ses pièces et son absence de déplacer la cause, à partir de ce moment-là, on nous propose généralement aux petites créances d'aller en médiation. La médiation consiste en quoi? Grosso modo, c'est une personne qui peut être un notaire, qui peut être un avocat, qui gratuitement offre une heure ou en tout cas, bref, pas beaucoup de temps, mais juste suffisamment pour pouvoir écouter les deux parties puis voir dans un premier temps s'il n'y aurait pas moyen de trouver un juste milieu. Ça peut être fait soit en personne, ça peut être fait par Zoom ou par courriel. Dans mon cas, moi, par expérience, j'ai expérimenté un peu les deux, à savoir en personne et par courriel. Par courriel, pour quelqu'un qui habite la Rive-Sud, de ne pas avoir à se déplacer, c'est toujours intéressant, c'est plus simple, c'est plus rapide, puis au bout de la ligne, ça fait très bien le travail. Fait que dans mon cas, moi, mon but, c'était d'essayer de prouver que le propriétaire était bel et bien la personne que j'accusais. Et dans son cas, à elle, sa job, c'était surtout de pouvoir dire et de faire justifier que non, c'est pas moi, tu perds ton temps, arrête de m'achaler, de toute façon, tu t'adresses pas à la bonne personne. Mais dès le départ, on se rappelle que moi, c'était lui m'avait dit que c'était lui le propriétaire. Fait que, au bout de la ligne, moi, je continue, malgré les menaces, malgré le fait qu'on me dit qu'il juge tout bonnement, qu'il perd son temps, puis qu'il ne payera jamais de toute façon. Ça, vous allez voir, ça arrive tout le temps. Peu importe le montant que vous mettez, on va toujours vous dire « Ah, ben de toute façon, je n'ai pas d'argent à te donner, je ne te le donnerai pas, blablabla, blablabla. » Toutes les raisons sont bonnes pour vous faire lâcher le morceau. Mais là, après ça, bref, la médiation, dans notre cas à nous, ça n'a rien donné. On s'est rendu à la séance par courriel, tout simplement, là, où est-ce qu'on se répondait des courriels. Et que dans le cas présent, c'était, si ma mémoire est bonne, un notaire qui, grosso modo, n'a pas le droit de donner de conseils juridiques. Dans cette situation-là, c'est pas, vous n'êtes pas en train de consulter un avocat, vous êtes en train de consulter un médiateur. Fait que son rôle n'est pas de vous dire vous avez tort ou vous avez raison. C'est de pouvoir dire je prends ta demande, donne-moi quelques arguments que je vais partager à l'autre partie et je te reviens avec sa réponse par la suite. Dans mon cas à moi, ce qui est intéressant, c'est que la version de la partie adverse changeait à chaque occasion que j'avais un feedback du notaire. Fait que c'était quand même assez intéressant pour moi, même si la médiation n'a pas le droit d'être utilisée en cours, c'est toujours intéressant de savoir que quand la personne te ment en face ou qu'elle change d'idée ou qu'elle change de version sans arrêt, ben ça te donne quand même une bonne idée que ben il y a peut-être des chances qu'au bout du compte que tu aies raison, là, visiblement. Mais bref, il y a une question quand même que depuis le début qu'on a posé puis qu'on n'a jamais mis vraiment de chiffres, c'est combien ça vaut concrètement une photo? C'est quoi les montants dans mon cas à moi que j'ai demandé? C'est quoi les montants qui sont accordés dans certains cas à gauche et à droite dans les différents jugements? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez à la cour, que ce soit la cour des petites créances ou la cour du Québec, le jugement que vous allez obtenir ou qui va être obtenu contre vous va servir la cause pour les suivants. Ce qui veut dire que si vous demandez, par exemple, réparation, puis que pour la photo, vous demandez, mettons, 5 $, puis que tout le monde demande chaque fois 5 $, bien, ça va faire en sorte qu'éventuellement, la jurisprudence, dans ce cas-là, va dire, bien, une photo, ça vaut 5 $. Mais si vous avez un montant qui est conséquent à la valeur réelle, bien, dans ce cas-là, bien, vous allez vous référer aux autres cas et vous allez être capable de pouvoir dire, ben regarde, là, dans tel endroit, le photographe a obtenu le montant X, l'autre a eu le montant Y, et ainsi de suite. Fait que ça fait au final que ce que vous demandez doit être logique, précis et surtout justifiable. Vous ne pouvez pas arriver et dire, ben la photo qui m'a volée, elle vaut 3 millions de dollars. Ça va être dur à justifier, à moins que vous ayez vraiment pris la photo la plus incroyable d'une photo astronomique ou je sais pas, tu sais, genre de photo que personne n'est en mesure de prendre. Mais si vous avez pris une photo d'un bâtiment, d'une personne ou quoi que ce soit, ben aussi professionnel que vous puissiez être, il y a quand même une certaine limite à laquelle que vous allez pouvoir vous rendre dans le but d'obtenir réparation. La référence pour moi, c'est le site de la CAPIC. La CAPIC étant l'Association canadienne des professionnels de l'image. Je vous mets en bas le lien, vous allez pouvoir vous rendre là-dessus. Ils ont quand même un document sur leur site qui sert un peu de référence pour pouvoir dire, par exemple, vous utilisez une photo qui est destinée, par exemple, à un journal grand public, bien, la valeur est associée à X ou Y. Vous utilisez la photo dans le cadre d'une campagne publicitaire sur des panneaux sur le bord du pont Jean-Cartier, bien, la valeur associée à ça est de X ou de Y. Bref, en fonction de l'usage de votre photo, il y a une valeur qui est associée à ça. Ce qui veut dire que votre photo n'a pas toujours la même valeur. La photo que vous allez faire, par exemple, pour par exemple, du professionnel qui va mettre sur LinkedIn, bien, elle n'a pas la même valeur que la photo que vous allez vendre à une agence de pub qui va l'utiliser à travers le pays au complet sur tout son affichage. Fait qu'à partir de là, un bon photographe est en mesure de pouvoir justifier la valeur de sa photo. Fait que dans le cadre d'un site web, généralement en fonction du trafic et de la popularité du site, on va déterminer une valeur entre X et Y. Généralement, de mon côté, et ça c'est propre à moi, ça peut être différent pour quelqu'un d'autre, là, c'est vraiment que moi, mais moi généralement sur un site web, ça peut aller de 100 à 150 $, tout dépendant de l'usage qui en est fait. Si c'est une photo qui est prise juste dans un petit paragraphe pas très gros, souvent ça va être une valeur qui est beaucoup moindre, mais si c'est une photo qui est sur une page d'accueil et qui va être publicisée en conséquence, bien soudainement je vais monter le montant qui va être consistant avec l'usage que la personne va faire. Revenons à notre cas de petite créance. Combien j'ai demandé concrètement? La valeur que j'ai demandé pour chacune de mes photos, c'est 275 $. 275 $ x 16, ça fait 4 400 $ au bas mot. Ça devient soudainement intéressant, sachant que c'est un montant qui est quand même assez important. Et au bout de la ligne, on parle pas loin d'un boîtier, là. On commence à parler que ça vaut la peine d'y aller, là. Fait que, tu sais, dans mon cas à moi, quand je vais aux petites créances pour faire valoir mes droits sur des photos, j'y vais tout le temps avec l'idée de dire, l'argent que je mets et le temps que je mets là-dedans, je suis prêt à le perdre parce que ça ne représente pas nécessairement tant de temps que ça. Oui, enregistrer une cause aux petites créances, c'est environ 200 $, tout dépendant de la quantité, que le montant que vous allez chercher. Oui, vous allez mettre beaucoup de temps, mais éventuellement, c'est un peu plate à dire, mais si vous avez à y retourner souvent, vous allez commencer à savoir un peu comment un peu gérer votre dossier. La première fois, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous arrivez devant le juge, ça peut être un juge que ça lui tente d'être là puis de vous expliquer le processus, comment fonctionne la cour des petites créances. Ça peut être un juge qui en a absolument rien à foutre puis qui se dit c'est un truc tellement simple que vous auriez dû régler ça sans avoir à vous présenter devant un juge. Fait que bref, vous avez différents types d'individus qui vont vous intimider d'une façon direct ou non. Là, c'est clair que la personne qui ne veut pas être là va vous rendre beaucoup plus nerveux, beaucoup plus stressé que la personne qui prend le temps de bien expliquer aux deux parties le processus exact puis comment ça fonctionne. Fait qu'à partir de là, il ne faut pas s'attendre à avoir un type précis de juge. Il faut surtout s'assurer que quand on se présente devant la cour, il faut avoir ses documents bien préparés. Il faut avoir une belle présentation. Là, on s'entend, là, c'est pas le jour où est-ce que vous mettez vos jeans troués. Mettez quand même un polo ou un chandail qui fait propre. Puis assurez-vous d'être à l'heure, assurez-vous d'être respectueux, assurez-vous de vous voyez le juge. Assurez-vous d'observer quand même un certain décorum pour vous assurer d'être pris au sérieux et surtout, ça va vous mettre dans un état un peu plus calme. Vous ne serez pas stressé. Vous allez être en mesure de répondre aux questions de façon claire et précise et vous allez éviter d'avoir à chercher vos notes et à commencer à mentir ou quoi que ce soit. Parce qu'on s'entend que devant la cour des petites créances puis devant la cour du Québec, peu importe, mentir, c'est la pire chose que vous allez faire. Vous allez vous entremêler dans vos histoires. Le juge, de toute façon, sa job à lui, c'est de vous poser des questions qui vont sembler extrêmement anodines, mais qui est en train un peu de passer par la porte d'en arrière pour obtenir la réponse qu'il a de besoin. Fait que d'être clair et précis, puis de dire la vérité, c'est la base. Ça peut paraître extrêmement simpliste, mais c'est un peu le meilleur argument à avoir quand on veut se présenter devant la cour. Fait que si on revient un peu à mon histoire... On a donc vu que j'ai envoyé une mise en demeure. Ça n'a pas fonctionné. J'ai inscrit la cause aux petites créances. On est passé par le processus de la médiation. Ça n'a toujours pas rien donné. Vient donc le jour où est-ce qu'on va recevoir une convocation à se présenter devant la cour. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on vous dit d'être là, par exemple, le mardi matin à 9h. Le mardi matin, vous allez arriver, il va y avoir un paquet de monde parce que de la façon que ça fonctionne, c'est qu'ils vont recevoir cette journée-là un paquet de causes, puis le but, c'est qu'ils vont vous mettre dans un ordre précis, ce qui fait que vous allez soit passer le tour de matin, mais vous pouvez aussi passer en après-midi ou quelque part dans la journée. Sachez donc que cette journée-là, vous allez la perdre au complet. C'est pas vrai que vous allez vous présenter en cours et qu'à 10h, vous allez être sorti, puis que vous allez retourner au boulot. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Vous allez être là pour la journée au complet. La façon que ça fonctionne, donc, c'est que vous vous présentez à 9h, on vous donne un peu l'ordre dans lequel que vous allez passer, et après ça, on vous offre la possibilité, l'ultime chance, d'aller refaire une autre session de médiation avec une avocate qui va être présente sur les lieux. Elle aura encore le même rôle, à savoir juste de pouvoir arbitrer un peu. Elle n'a pas le rôle de pouvoir donner des conseils juridiques, mais c'est clair que si vous dites une grosse connerie, ben, elle va peut-être un peu au moins de vous dire « ben non, ça, tu n'as pas le droit ». Dans mon cas à moi, donc, c'était la première fois que je rencontrais la partie adverse, la partie défendresse, et sachant que déjà au cours des dernières rencontres, durant la médiation, durant la fois que je lui avais parlé, ça tournait toujours autour d'une nouvelle version qui faisait en sorte que « ah, ben là, au départ... c'était son entreprise qui en était propriétaire. Après ça, c'était des jeunes qui en étaient propriétaires. Après ça, c'était des étudiantes. Après ça, c'était un tel. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, ça faisait jamais de sens, ce qui veut dire que moi, quand je suis rentré là en médiation, je me doutais qu'on allait finir ça devant le juge, mais t'as le temps d'y aller. Fait que, tu sais, prenons le temps d'y aller, puis voyons un peu l'argumentation qui va être sortie. Dans mon cas, moi, la partie adverse a profité un peu de l'occasion pour... faire un peu de l'intimidation du genre « ah ben, tu t'adresses pas à la bonne personne, tu es en train de marceler, moi je vais te poursuivre pour plusieurs milliers de dollars ». Malheureusement, si la personne que vous poursuivez a bel et bien le droit de vous exiger des sommes d'argent si jamais elle le juge requis, néanmoins, il y a un moment pour le faire et il y a un moment limite, ce qui est généralement quand elle reçoit la cause, qu'elle reçoit toute la documentation au départ. Une fois qu'elle reçoit vos pièces justificatives, elle a le temps justement de demander un transfert, elle a le temps de demander le dépôt de nouvelles pièces, elle a le temps de demander justement de pouvoir exiger à son tour un montant contre vous. Mais rendu devant la cour, C'est plutôt très rare qu'un juge va dire, ben oui, d'accord, je vais vous accorder un montant. Généralement, on va demander aux gens d'être un peu préparés, ce qui fait qu'à ce moment-là, quand on vous attaque un peu sur ce genre d'argumentation-là, ben, il faut prendre ça un peu avec un grain de sel. Bref, on se retrouve donc devant le juge, quelque part dans cette journée-là. Je me souviens plus si c'était le matin ou l'après-midi, on s'en fout, c'est pas important. Et à partir de là, je vous avais parlé un peu du fait qu'il y a des juges parfois qui vont être extrêmement conciliants, qui vont prendre le temps de bien vous expliquer comment fonctionne la cour, comment va fonctionner le déroulement de la journée, ainsi de suite. Et vous avez aussi des juges qui vont s'en balancer éperdument, qui vont pratiquement vous lancer des pointes à chaque fois que vous allez fouiller dans vos notes pour essayer de retrouver l'information qu'on vous demande. Dans mon cas à moi, quand on est allé à Saint-Jean-Richelieu, le juge a bel et bien pris le temps de nous expliquer tout, a pris son temps, a vraiment fait ça de façon très professionnelle, justement pour s'assurer de pouvoir entendre les deux parties et de s'assurer de pouvoir comprendre le problème et de pouvoir prendre la bonne décision qui s'impose. Parce qu'à partir du moment que vous êtes devant le juge, il va quand même vous redemander aux deux parties si vous êtes prête à vous entendre de votre plein gré pour éviter un jugement. Parce qu'à partir du moment qu'il y a un jugement qui est prononcé, ce jugement-là, c'est final et ça ira peut-être pas nécessairement dans le sens que vous voulez. Si vous avez une cause qui peut être un peu difficile à justifier, par exemple, dans mon cas, moi, j'avais toujours un peu le défi de justifier que c'était lui qui était bel et bien propriétaire. Mais si je suis pas... Si je ne suis pas en mesure de le démontrer hors de tout doute, ma cause tombe à l'eau. Même si, oui, ce site-là utilise mes photos, même si, oui, il y a bel et bien façon de prouver que ce sont les miennes, à partir du moment que je ne suis pas capable de prouver que c'est lui le propriétaire, ben je n'ai pas de cause. Fait que mon rôle à moi, c'est de toujours être en mesure de pouvoir dire « c'est lui le propriétaire ». Et ce qui est arrivé dans mon cas à moi, qui a été un heureux hasard, c'est que du moment que la partie adverse a reçu la convocation à la cour, elle est allée supprimer son site web de l'entreprise où est-ce que mes photos étaient affichées et a supprimé par la même occasion le site web de sa compagnie. Et le message qui était affiché était exactement le même dans les deux cas pour dire le site n'est plus accessible, il y avait la même typo, il y avait les mêmes couleurs, bref, tout était pareil. Et quand je suis allé voir, par exemple, le site des archives sur le web, qui est un site que vous devriez connaître si vous voulez faire valoir vos droits d'auteur, je mets l'adresse dans le bas, ce site-là est en mesure de pouvoir répertorier un peu toutes des captures d'écran de chacun des sites à travers le web au grand complet, ce qui veut dire que j'étais en mesure de pouvoir déterminer à quel moment précis que ces deux sites-là ont été mis hors ligne. À partir de là, ben c'est facile de pouvoir arriver devant le juge, je dis « Monsieur le juge, du moment que la partie adverse a reçu sa convocation, dans les deux jours qui ont suivi, ces deux sites étaient retirés et les deux sites affichaient le même message. » Fait qu'à partir de là, ça devient soudainement plus facile. Et en plus de ça, c'est que la partie adverse durant la présentation devant le juge a admis comme quoi que oui, effectivement, elle était responsable du site web, mais que les propriétaires étaient d'autres personnes, que même s'il a travaillé pour ces gens-là pendant plusieurs années, ne connaît pas leur nom de famille, ne connaît pas leur numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Fait que bref, le juge a été en mesure de pouvoir s'apercevoir que la partie adverse il y avait une argumentation un peu plus faible de ce côté-là. Fait à partir de ce moment-là, c'était beaucoup plus facile de dire c'est lui le propriétaire du site web. Fait que bref, ça c'est dans mon cas à moi. Dans certains cas, c'est plus facile. Si vous avez par exemple une compagnie X qui utilise vos photos, c'est beaucoup plus facile si cette compagnie-là elle est moindrement connue. Si vous avez un journal qui utilise vos photos, c'est beaucoup plus facile également. Vous avez déjà des personnes ressources à qui vous adresser dans ces cas-là. Fait que ça simplifie beaucoup les choses. Mais dans mon cas, moi, j'avais ce défi-là et au cours de la rencontre avec le juge devant la cour, c'était quand même assez intéressant de pouvoir ressoulever de façon régulière, de dire, écoutez, monsieur le juge, je tiens à dire que la partie adverse dit qu'elle a travaillé là 2 ans, mais ne connaît pas les noms de famille des personnes avec qui elle travaillait. C'est plutôt faible comme argumentation. Vous conviendrez comme moi que généralement, quand on travaille à un endroit, ben, on connaît au moins le nom de famille du boss, là, t'sais, c'est la moindre des choses. Fait que, bref, la journée se termine et à partir de ce moment-là, le juge a environ 6 mois pour émettre son jugement, ce qui veut dire que vous devez encore attendre et vous n'aurez pas une réponse en sortant de la cour. Vous aurez quand même, on s'entend, quand même une bonne idée de si ça l'a bien été ou si ça l'a mal été. Dans mon cas, à moi, je me suis rendu compte rapidement que si j'allais gagner pour ce qui était des photos, j'allais pas avoir les dommages et intérêts que je réclamais parce que, comme on le disait un peu plus tôt, les dommages et intérêts, vous les chiffrez au montant que vous voulez, mais le travail après ça que vous avez, c'est de justifier réellement la perte par rapport à ça. Fait que dans mon cas à moi, ben j'expliquais que ma présence à la cour représentait un montant X. Le fait que j'ai eu à travailler pour ça représentait un montant Y, somme à laquelle que je demandais à la partie adverse. Le juge, sa seule et unique question, ça a été de demander, ben votre présence aujourd'hui a-t-elle engendré un manque à gagner? Avez-vous été obligé de canceller des clients parce que vous étiez ici? Entre vous et moi, si vous êtes moindrement préparé, ben vous allez les canceller, vous allez les replacer. Fait que, tu sais, vous n'allez pas nécessairement perdre cet argent-là, mais vous allez perdre votre temps. Puis si ben, vous êtes travailleur autonome, ben, chaque journée que vous ne travaillez pas, elle a une valeur. Là, t'sais. Fait que, au bout de la ligne, le juge a refusé de m'accorder les compensations que je demandais, principalement parce que j'avais expliqué que j'avais été en mesure de pouvoir déplacer mes clients, ce qui était vrai. Mais pour ce qui est des photos, rappelons que je demandais 275 $ par photo fois 16 qui avait été utilisé, donc pour un total de 4 400 $. Et le jour que j'ai reçu le jugement convenait que le prix que je demandais était bel et bien correct et que j'avais droit à cet argent-là. Fait que j'ai eu donc le 4 400 $ que je réclamais aux petites créances 2 ans après. Dans le jugement est toujours basé justement à ce qu'on appelle la jurisprudence. Fait que tu sais, quand je vous en parlais au départ, combien ça vaut concrètement une photo? Dans mon cas à moi, j'ai estimé que mes photos à moi valaient 275 $ pièce. Mais pour pouvoir appliquer le jugement et dire que oui, le montant qui est réclamé par M. Dumouchel fait du sens, il se base donc sur d'autres jugements qui ont été portés. Et il en fait mention dans le jugement qui m'a été envoyé, où est-ce que si on regarde vers la fin, OK, chose importante. On va donc, je vais le faire afficher à côté de moi parce que c'est quand même assez intéressant, même si ça reste quand même de la poutine juridique. Donc, il écrit, dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toute violation relative à une œuvre donnée ou à un objet donné du droit d'auteur, donc applicable dans mon cas, des dommages et intérêts dont le montant d'au moins 500 $ et au plus de 20 000 $ est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence. Donc, j'aurais pu demander entre 500 et 20 000 $. C'est ce que ça dit concrètement. Mais comme on dit, en fonction du client, c'est là que s'établit un peu le barème de savoir si tu plus 500, si tu plus 20 000. Dans mon cas, moi, c'était 275. J'étais correct avec ça, mais j'aurais très bien pu demander un montant beaucoup plus élevé. Le texte dit également, dans le cas de violations commises à des fins non commerciales, pour les violations relatives à toutes les œuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d'auteur, des dommages et intérêts d'au moins 100 $ et d'au plus 5 000 $ dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence. Donc, quand on dit que les droits d'auteur, ça vaut quelque chose, que vos œuvres, vos photos valent quelque chose, vous l'avez ici noir sur blanc dans un jugement. Maintenant, le document dit également, le tribunal a étudié diverses décisions afin d'évaluer le montant qui pourrait être dû. Ainsi, voici un résumé des montants accordés. Brosso contre Baron Lafrenière pour une photo, 250 $. On est donc pas mal dessus la cible que moi j'avais mis. O'Hara contre 90-17-06-48 Québec Inc. Une photo, publiée 37 minutes. Un montant de 50 $. Fait qu'une demi-heure, 50 $. Gaudreau contre Néo Média, une photo, 600 $. Et ça continue comme ça. Il y en a un autre exemple. Et si je vous donne le plus élevé, on a Patrick Saad contre le Journal de Montréal. Deux photos publiées dans un journal à grand tirage. 2 000 $. Et Abby Saad contre Ramchadar. Deux photos. 1 000 $. Fait que bref, on le voit ici. Là. Concrètement, là, vos photos, elles valent quelque chose. Vos photos sont reconnues comme étant votre propriété quand vous allez à la cour. Dans mon cas, le jugement dit donc, dans le dossier sous étude, il s'agit de 16 photographies qui ont été en ligne environ une année. Le tribunal considère que la réclamation de M. Dumouchet à la raison de 275 $ par photo est raisonnable compte tenu des circonstances entourant leur publication. C'est donc un total de 4 400 $ qui devra être payé par le défendeur au demandeur. Fait qu'au final, après 2 ans, on arrive donc au moment où est-ce qu'on a un jugement. Et maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que je vais être en mesure de le faire appliquer par la partie demanderesse, par la partie adverse? Il faut savoir que si des huissiers existent, c'est forcément parce qu'il y a des gens qui ne payent pas leur dette. Et dans le cas présent, après avoir discuté avec l'autre partie, je me suis toujours arrangé pour la garder sans nécessairement l'insulter. Fait que je me suis gardé une petite gêne pour répondre à toutes les insultes qu'elle me faisait. Elle a donc convenu néanmoins de pouvoir me payer, mais en plusieurs versements. À partir de là, c'est libre à chacun de prendre l'entente avec la partie adverse. Moi, je m'étais renseigné auprès d'un huissier à savoir que représentait exactement le service quand on fait affaire avec un huissier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un huissier... Oui, il a un coût que vous allez devoir assumer, mais qui sera porté à la note de la partie adverse. Mais c'est un coût qui est quand même considérable, qui frôle les 900 ou les 1 000 $. Dans mon cas, à moi, ça tournait autour de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas vrai que parce qu'il se met le nez dans le dossier, que vous allez obligatoirement recevoir tout l'argent qui vous est dû. La partie adverse peut très bien ne pas répondre, peut très bien... prendre l'avis du huissier, le mettre au vidange, puis vous occasionner d'autres frais, puis éterniser la chose. Mais vous avez toujours avantage d'essayer de voir comment vous pouvez vous arranger avec la personne pour qu'elle vous paie ce qu'elle vous doit. Dans mon cas, moi, j'avais donc accepté de différer un peu les paiements pour leur permettre de les étirer sur plusieurs versements. À partir du moment que l'argent rentrait bec et ongles aux dates qui étaient déterminées, je considérais qu'on avait une bonne entente pour pouvoir régler le problème. En terminant, il y a un truc aussi où est-ce qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de débats par rapport à ça sur le web, à savoir tout ce qui est les signatures dans les photos, les fameux watermarks, pour ou contre. Il y a beaucoup de gens qui sont contre parce que ça altère un peu la photo, c'est souvent laid, c'est souvent gros. Et il y a d'autres personnes qui disent non, ça me permet de conserver mes droits d'auteur là-dessus et de m'assurer de pouvoir retrouver les personnes qui les utilisent sans mon consentement. Il n'y aura pas nécessairement une meilleure façon que d'autres. Par contre, ce que je peux vous dire dans mon cas à moi, c'est que moi, avec un nom qui c'est Jarold Dumouchel, c'est plutôt difficile de pouvoir prendre ma photo puis pas être en mesure de me retrouver sur le web. Il suffit de taper mon nom dans Google, je suis le premier résultat, il n'y a aucune chance que tu tombes sur un autre Jarold Dumouchel. À partir de là, si tu voles mes photos, tu peux pas dire que tu n'as pas fait l'effort pour me retrouver puis que ça n'a pas marché. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je les mets, mes crédits photos, dans mes photos. Mais quand j'ai une boîte qui prend mes photos sans mon autorisation et qui, en plus, enlève ma signature sur les photos, j'ai donc un argument supplémentaire pour pouvoir justifier devant le juge que non seulement ils utilisent mes photos sans mon autorisation, mais qu'en plus, ils ont fait exprès et avec la connaissance du droit d'auteur en retirant mon crédit photo pour pouvoir justement s'éviter de me payer mes photos. Fait qu'à partir de là, c'est plus facile devant la cour si quelqu'un a mis son crédit photo puis qu'en plus il a été retiré par la partie adverse, ça devient soudainement pas mal plus embêtant pour eux de justifier que je savais pas que je n'avais pas le droit de faire ça. Fait que bref, ça complète un peu pour l'épisode d'aujourd'hui. Ça a été quand même pas mal de choses. Si vous voulez consulter le jugement en question, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur la cour des petites créances. Et sinon, pour le reste, ben un grand merci d'avoir écouté l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner en bas pour pouvoir être informé des prochains épisodes. Et sur ce, ben moi, je vous souhaite une excellente journée.